Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout. Et vous êtes prête à tout pour lui.
Je l'aime, dit-elle, frissonnante de passion.
Et vous croyez qu'il vous sauvera?
Elle haussa les épaules et, s'avançant vers son père, elle le prévint.
Je t'enlève, monsieur Stickman. Nous allons à la Bibliothèque nationale.
Tu rentres déjeuner?
Peut-être, ou plutôt non, mais ne t'inquiète pas.
Et elle déclara fermement à Sholmès.
Je vous suis, monsieur.
Sans arrière-pensée?
Les yeux fermés.
Si vous tentez de vous échapper, j'appelle, je crie. On vous arrête et c'est la prison. N'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat.
Je vous jure sur l'honneur que je ne ferai rien pour m'échapper.
Je vous crois. Marchons.
Ensemble, comme ils l'avaient prédit, tous deux quittèrent l'hôtel. Sur la place, l'automobile stationnait, tournait dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien et sa casquette que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, Sholmès entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, pria Clotilde de monter et s'assit auprès d'elle. La voiture démarra brusquement, gagna les boulevards extérieurs, l'avenue Hoche, l'avenue de la Grande Armée. Herlock, pensif, combinait ses plans.
Ganimard est chez lui. Je laisse la jeune fille entre ses mains. Lui dirais-je qui est cette jeune fille? Non, il l'amènerait droit au dépôt, ce qui dérangerait tout. Une fois seul, je consulte la liste du dossier MB. Et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin au plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu, et je lui livre Arsène Lupin et sa bande.
Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait. Et, cédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria
« Excusez-moi, mademoiselle, si je montre tant de satisfaction. La bataille fut pénible et le succès m'est particulièrement agréable. »«
Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. »«
Je vous remercie. Mais quelle drôle de route nous prenons. Le chauffeur n'a donc pas entendu ?»
À ce moment, on sortait de Paris par la porte de Neuilly.
« Que diable !
Pourtant, la rue Pergolèse n'était pas en dehors des fortifications. » Elle souriait toujours, les yeux fixés au pavé, dont la route se hérissait devant la voiture.
« Qu'il s'arrête donc !»
lui dit Sholmès, fou de colère.
« Vous voyez bien que je suis capable de tout !»
Le canon du revolver frôla les boucles de cheveux. Elle murmura «
« Ce Maxime est d'une imprudence. À ce train-là, nous sommes sûrs de déraper. »
Sholmès remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière, prêt à s'élancer malgré l'absurdité d'un pareil acte. Clotilde lui dit
« Prenez garde, monsieur, il y a une automobile derrière nous. »
Il se pencha. Une voiture les suivait en effet. Énorme, farouche d'aspect, avec sa proue aiguë, couleur de sang, et les quatre hommes en peau de bête qui la montaient.
« Allons, pensa-t-il, je suis gardé. Patientons. »
Il croisa les bras sur sa poitrine avec cette soumission orgueilleuse de ceux qui s'inclinent et qui attendent quand le destin se tourne contre eux. Et tandis que l'on traversait la Seine et que l'on brûlait Suresnes, Rueil, Chatou, immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume, il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur. Que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard pût être un complice placé là d'avance, il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu. et il ne pouvait l'avoir été qu'après le moment où lui, Sholmès, avait menacé Clotilde, puisque personne auparavant ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clotilde et lui ne s'étaient point quittés. Un souvenir le frappa. La communication téléphonique demandée par la jeune fille, sa conversation avec la couturière. Et tout de suite, il comprit. Avant même qu'il n'eût parlé, à la seule annonce de l'entretien qu'il sollicitait comme nouveau secrétaire de M. d'Estanges, elle avait flairé le péril, deviné le nom et le but du visiteur. Et, froidement, naturellement, comme si elle accomplissait bien en réalité l'acte qu'elle semblait accomplir, elle avait appelé Lupin à son secours, sous le couvert d'un fournisseur, et en se servant de formules convenues entre eux. Comment Arsène Lupin était venu? Comment cette automobile en station, dont le moteur trépidait, lui avait paru suspecte? Comment il avait soudoyé le mécanicien? Tout cela importait peu. Ce qui passionnait Sholmès au point d'apaiser sa fureur, c'était l'évocation de cet instant où une simple femme, une amoureuse il est vrai, domptant ses nerfs, écrasant son instinct, immobilisant les traits de son visage, soumettant l'expression de ses yeux, avait donné le change au vieux Herlock Sholmès. Que faire contre un homme servi par de tels auxiliaires et qui, par le seul ascendant de son autorité, insufflait à une femme de telles provisions d'audace et d'énergie? On franchit la Seine et l'on escalada la côte de Saint-Germain. Mais à 500 mètres au-delà de cette ville, le fiacre ralentit. L'autre voiture vint à sa hauteur et toutes deux s'arrêtèrent. Il n'y avait personne aux alentours. « Monsieur Sholmès, dit Lupin, ayez l'obligeance de changer de véhicule. Le nôtre est vraiment d'une lenteur. « Comment donc ? S'écria Sholmès, d'autant plus empressé qu'il n'avait pas le choix. « Vous me permettrez aussi de vous prêter cette fourrure, car nous irons assez vite, et de vous offrir ces deux sandwichs. Si, si, acceptez. Qui sait quand vous dînerez ?» Les quatre hommes étaient descendus. L'un d'eux s'approcha, et comme il avait retiré les lunettes qui le masquaient, Sholmès reconnut le monsieur en redingote du restaurant hongrois. Lupin lui dit « Vous reconduirez ce fiacre au chauffeur à qui je l'ai loué. Il attend dans le premier débit de vin à droite de la rue Legendre. Vous lui ferez le second versement de 1 000 francs promis. Ah, j'oubliais. Veuillez donner vos lunettes à monsieur Sholmès. » Il s'entretint avec mademoiselle d'Estanges, puis s'installa au volant et partit, Sholmès à ses côtés, et derrière lui un de ses hommes. Lupin n'avait pas exagéré en disant qu'on irait assez vite. Dès le début, ce fut une allure vertigineuse. L'horizon venait à leur rencontre, comme attiré par une force mystérieuse, et ils disparaissaient à l'instant comme absorbés par un abîme vers lequel d'autres choses aussitôt, arbres, maisons, plaines et forêts, se précipitaient avec la hâte tumultueuse d'un torrent qui sent l'approche du gouffre. Sholmès et Lupin n'échangeaient pas une parole. Au-dessus de leur tête, les feuilles des peupliers faisaient un grand bruit de vagues, bien rythmé par l'espacement régulier des arbres. Et les villes s'évanouirent. Mantes, Vernon, Gaillon. D'une colline à l'autre, de Bonsecours à Canteleu, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quai, Rouen ne sembla que la rue d'une bourgade. Et ce fut Duclair, Caudebec, le pays de Caux, dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et Lillebonne, et Quillebeuf. Et voilà qu'ils se trouvèrent soudain au bord de la Seine, à l'extrémité d'un petit quai au bord duquel s'allongeait un yacht sobre et robuste de ligne et dont la cheminée lançait des volutes de fumée noire. La voiture stoppa. En 2 heures, ils avaient parcouru plus de 40 lieues. Un homme s'avança en vareuse bleue, la casquette galonnée d'or, et salua. Parfait, capitaine, s'écria Lupin. Vous avez reçu la dépêche ?
Je l'ai reçue.
L'hirondelle est prête ?
L'hirondelle est prête.
En ce cas, monsieur Sholmès. L'anglais regarda autour de lui, vit un groupe de personnes à la terrasse d'un café, un autre plus près, hésita un instant, puis, comprenant qu'avant toute intervention, il serait happé, embarqué, expédié à fond de cale, il traversa la passerelle et suivit Lupin dans la cabine du capitaine. Elle était vaste, d'une propreté méticuleuse, et toute claire du vernis de ses lambris et de l'étincellement de ses cuivres. Lupin referma la porte et, sans préambule, presque brutalement, il dit à Sholmès « Que savez-vous au juste ?»«
Tchou !»«
Tout ?» Précisez. Il n'y avait plus dans l'intonation de sa voix cette politesse un peu ironique qu'il affectait à l'égard de l'anglais. C'était l'accent impérieux du maître qui a l'habitude de commander et l'habitude que tout le monde plie devant lui. Fût-ce un Herlock Sholmès. Ils se mesurèrent du regard, ennemis maintenant, ennemis déclarés et frémissants. Un peu énervé, Lupin reprit « Voilà plusieurs fois, monsieur, que je vous rencontre sur mon chemin. C'est autant de fois de trop, et j'en ai assez de perdre mon temps à déjouer les pièges que vous me tendez. Je vous préviens donc que ma conduite avec vous dépendra de votre réponse. » Que savez-vous au juste ?
Tout, monsieur, je vous le répète.
Arsène Lupin se contint et d'un ton saccadé, je vais vous le dire, moi, ce que vous savez. Vous savez que sous le nom de Maxime Bermond, j'ai retouché 15 maisons reconstruites par monsieur d'Estanges.
Oui,